Ce jeudi, La Fabrique, comme les nouveaux chemins de la connaissance à 11h et les émissions scientifiques à 16h, poursuit la semaine consacrée à la préparation du bac blanc. Et aujourd'hui, donc dans La Fabrique de l'Histoire, le bac blanc d'histoire, bien entendu. Aujourd'hui, le chapitre sur les mémoires de la guerre d'Algérie. La construction de l'émission est semblable aux précédentes que nous avons consacrées, je le rappelle, mardi au Proche-Orient et hier au projet politique européen. Un portrait documentaire d'un personnage historique suivi à 9h30 d'une composition par un professeur de terminale accompagné de certains de ses élèves. Aujourd'hui, le chapitre traité est celui des mémoires de la guerre d'Algérie par Rémi Pavin, professeur au lycée Blaise Sandra à Sevran, et le portrait qui le précède et qui va commencer tout de suite, signé Séverine Yattard et Françoise Camard, eh bien c'est le portrait d'Henri Alleg, auteur de La Question, dressé par l'historien Tramor Kemener, spécialiste de la guerre d'Algérie.
D'Alger, Frédéric Potcher nous appelle à l'instant pour nous mettre au courant du grand procès qui va s'ouvrir demain devant la justice militaire.
12 juin 1960.
Nous vous écoutons.
Poursuivi pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Association de malfaiteurs, reconstitution de Ligue dissoute. 9 membres de l'ex-parti communiste algérien se trouveront à partir de demain matin dans le box des accusés du tribunal permanent des forces armées d'Alger que préside le conseiller Caprino. Un 10e accusé ne se présentera pas, Maurice Audin. On sait qu'il y a une affaire Audin déjà portée devant d'autres juridictions. On le soupçonne d'aider le Parti communiste algérien dont il fait partie du reste. Parmi les 9 autres accusés, 5 sont détenus. Ce sont un musulman nommé Ahmed Akash, puis messieurs André Moine, Paul Caballero, Georges Catoni et Henri Salem dit Alleg. Henri Alleg fut arrêté le 13 juin 1957 à la suite d'une souricière tendue par les parachutistes dans l'appartement de Audin.
C'est un juif d'origine polonaise. Il s'appelle Harry Salem.
Tramor Kemener.
Sa famille a émigré de la petite bourgeoisie, en fait, mais chassée par l'antisémitisme ambiant, a quitté, en fait, la Pologne, s'est réfugié dans un premier temps en Grande-Bretagne, où il est né. Et ensuite, dans ses jeunes années, en fait, sa famille a émigré en France, où elle a continué, enfin, voilà, elle s'est installée. Et donc, le jeune Harry Salem a suivi ses études de baccalauréat à Paris, des études littéraires aussi à la Sorbonne, et donc est parti en 1939, juste avant le déclenchement de la guerre, voilà, de la Seconde Guerre mondiale. Il est parti donc en Algérie, à Alger. Et là, ça a été une découverte pour lui très importante, à la fois donc un pays qu'il découvrait, je dis bien pays justement aussi, parce que il prend tout de suite conscience du caractère colonial et donc révolté aussi par cette distinction qui est élaborée. Donc à la fois il tombe amoureux du pays et en même temps il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le problème c'est que au cours de cette Seconde Guerre mondiale, évidemment, le régime de Vichy s'impose aussi à l'Algérie et qu'il va se retrouver dans une forme de semi-clandestinité. Et donc, il va rejoindre même la clandestinité et rejoindre à ce moment-là aussi les jeunesses communistes algériennes. Il va rejoindre, travailler pour Alger Républicain, donc au fur et à mesure. C'est un journal qui n'est pas strictement communiste. C'est un organe de presse qui est plutôt ouvert, plutôt favorable à l'indépendance aussi, dans une optique libérale.
Réformatrice,
voilà. Et donc, on a deux grandes figures qui ont été plus ou moins liées au communisme et qui ne sont pas foncièrement communistes. C'est d'une part Albert Camus, qui a notamment rédigé ses premiers articles, notamment sur la misère en Kabylie, avec Alger Républicain. Et puis, le deuxième auteur, extrêmement connu aussi, c'est le romancier Kateb Yassine, berbère, qui est favorable à l'indépendance algérienne également. Donc, grande figure intellectuelle algérienne. Henri Alleg va au fur et à mesure prendre un rôle de plus en plus important au sein de cet organe de presse avant de prendre sa direction donc en 1951. Le journal est interdit en même temps que le PCA le 12 septembre 1955.
Je pense que tous les militants un peu avertis de cette époque avaient la même pensée.
Henri Alleg, 21 octobre 1997.
Si je suis arrêté, je serai torturé. Et il faut dire d'ailleurs qu'en Algérie, la torture, même avant le déclenchement de l'insurrection, était une chose permanente. Combien de fois à Alger Républicain, les Algériens sont venus pour nous exposer comment ils avaient été torturés. Nous étions parfaitement au courant de tout cela. Et il faut ajouter que lorsque notre journal en parlait, il était immédiatement saisi et les journalistes poursuivaient pour faux, pour mensonges, pour insultes à la police, etc. Par conséquent, il n'y avait absolument rien de surprenant que nous apprenions que un tel, la première question que les avocats posaient, est-ce que vous avez été torturé ? 99 fois sur 100, malheureusement, la réponse était oui.
Henri Alleg est resté un militant communiste toute sa vie. Au-delà même de la guerre d'Algérie, effectivement, jusqu'à la fin de sa vie, il a toujours trouvé des justifications au fait de voter des pouvoirs spéciaux par le PCF, donc en mars 1956. Et en même temps, c'est un communiste algérien. Donc, c'est-à-dire que pour lui, la question ne se pose pas. Il s'agit de, pendant la guerre, de lutter en faveur de l'indépendance algérienne.
C'est ce matin également qu'Alger a appris l'exécution du communiste Fernand Yveton, accusé d'avoir également déposé une bombe dans un local de l'usine à gaz du Hamma.
Octobre 1997.
Deux terroristes musulmans ont été exécutés ce matin aussi, en même temps que Fernand Yveton, dans la cour de la prison de Barberousse.
On a arrêté des dizaines de milliers de gens. On a vu disparaître à Alger 3000 personnes, d'après les comptes de Tedjène, qui était le secrétaire général de la police à Alger. C'est des gens qui ont été arrêtés et dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Officiellement. Parce qu'en gros, on sait. Ils ont été jetés du haut d'hélicoptères dans le port d'Alger avec les pieds pris dans des bassines auparavant remplies de ciment. Ils ont été assassinés sous la torture. On connaît le nom de Maurice Audin, mais il y en a combien d'autres ? Des gens qui, entre guillemets, se sont suicidés, etc., etc.
Henri Alleg est fiché, comme tous les autres, on pourrait dire, communistes. Donc, comme toujours, on pourrait dire, un des principaux enjeux des autorités, au sens très très large du terme, c'est de retrouver les traîtres. Et donc, ici, les communistes algériens font vraiment office de traîtres, dans un sens de guerre froide. Donc, ce sont, voilà, c'est vraiment
doublement
la cinquième.
Traîtres, ouais.
Doublement des traîtres, c'est vraiment la cinquième colonne qu'il faut retrouver. Les autorités laissent en faction dans son appartement donc un militaire et le lendemain en fait Henri Alleg arrive et est arrêté. Au fur et à mesure donc ils vont être amenés à El Bihar dans un centre de tri en fait qui est un centre de torture hein, très connu à Alger dans les beaux quartiers d'Alger et ils vont être torturés là pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines.
Hein. Donc ça on sait qu'ils ont été torturés, ils y sont au même moment en fait.
Voilà,
Audin
ils y sont au même
Alleg.
Moment. Ouais. Effectivement ils se croisent là-bas, ils s'entrecroisent. Mais donc il ne sait pas à un moment donné que c'est la dernière fois qu'il va voir Maurice Audin. Ils sont à ce moment-là également totalement isolés, c'est-à-dire que leurs épouses en fait sont dans leurs appartements avec interdiction de sortir et avec des militaires qui sont présentes chez eux. Ce qui fait que le secret est maintenu autour de l'arrestation et donc là ils sont complètement à la merci des parachutistes du 1er RCP et du 1er REP.
Alors qui sont alors ces parachutistes puisque Henri Alleg va le raconter, il va même donner des noms. Hein.
Les militaires à ce moment-là sont dans une situation de tout pouvoir. L'impunité est la règle. Donc du coup, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Hein. Donc on retrouve des cadavres qui arrivent en bord de plage au fur et à mesure.
Dans cette immense prison surpeuplée dont chaque cellule abrite une souffrance, parler de soi est comme une indécence. Au rez-de-chaussée, c'est la division des condamnés à mort. Ils sont là 80, les chevilles enchaînées, qui attendent leur grâce ou leur fin. Et c'est à leur rythme que nous vivons tous. Pas un détenu qui ne se retourne le soir sur sa paillasse à l'idée que l'aube peut être sinistre, qui ne s'endort sans souhaiter de toute sa force qu'il ne se passe rien. Mais c'est pourtant de leur quartier que montent chaque jour les chants interdits, les chants magnifiques qui jaillissent toujours du cœur des peuples en lutte pour leur liberté.
Henri Alleg doit sa survie à l'action d'abord de son épouse.
Tramorque et meneur.
Gilberte Alleg va faire en sorte de mobiliser massivement, de sorte que finalement tout le monde à Alger sait que son mari a disparu. Et c'est cette mobilisation-là qui a permis aussi à son mari de ne pas être tué. Et du coup, au fur et à mesure, il va être transféré au centre du Landy. Le camp du Lodi, c'est un centre donc où sont internés à très très grande majorité des communistes algériens. Donc ça va être le camp de regroupement, d'internement des communistes algériens. Au fur et à mesure, la mobilisation va permettre que Henri Alleg aille à la prison Barberousse, prison civile d'Alger. C'est dans le camp du Landy, en fait, que Henri Alleg commence à écrire. Et il commence à rédiger par lui-même une plainte qu'il va réussir à sortir par des complicités. Ces plaintes-là vont être envoyées en France et donc plainte va être déposée dès ce moment-là. Et c'est dès ce moment-là donc qu'il commence à rédiger les actes qu'il a subis. Et donc ensuite, il va rencontrer l'avocat Léo Matarazzo qui va s'occuper de sa défense et c'est Léo Matarazzo qui va lui suggérer de continuer à rédiger en fait les actes qu'il a subis. Et Henri Alleg du coup va commencer à rédiger feuillet par feuillet sur du papier toilette son témoignage, le récit de la question qui va au fur et à mesure sortir grâce à son avocat et va être publié à terme.
Il y a maintenant plus de 3 mois que j'ai été arrêté. J'ai côtoyé durant ce temps tant de douleurs et tant d'humiliations que je n'oserais plus parler encore de ces journées et de ces nuits de supplice si je ne savais que cela peut être utile. Que faire connaître la vérité, c'est aussi une manière d'aider au cessez-le-feu et à la paix. Des nuits entières, durant 1 mois, j'ai entendu hurler des hommes que l'on torturait. Et leurs cris résonnent pour toujours dans ma mémoire. J'ai vu des prisonniers jetés à coups de matraque, d'un étage à l'autre, et qui, hébété par la torture et les coups, ne savait plus que murmurer en arabe les premières paroles d'une ancienne prière. La question, Henri Alleg, 1961.
Il vient de sortir des tortures, et il raconte de manière extrêmement claire et fraîche dans son esprit aussi, ce qu'il a vécu. Ça, c'est la grande force aussi de ces témoignages-là. C'est pas un témoignage qui a été écrit
a posteriori. Alors, les feuillets vont passer en France, et donc c'est un éditeur aussi qui va prendre en charge cette publication, ce qui n'est pas rien hein, parce qu'on a oublié cette France voilà où tout est contrôlé quand même. Hein, Ce sont les éditions de Minuit et Jérôme Lindon qui vont publier donc cet ouvrage. La question pourra aussi parler du titre.
La force de cet ouvrage aussi, c'est d'avoir réussi à transcender les clivages politiques, on pourrait dire. Et une des forces de Gilberte Alleg aussi, ça a été dès le début de ne pas s'en tenir strictement à des réseaux communistes qui auraient en quelque sorte renfermé un petit peu le danger que courait Henri Alleg simplement au sein de réseaux et finalement ça aurait été quelque chose qui aurait été beaucoup moins connu. Une maison d'édition donc qui est issue de la résistance et qui permet de toucher un beaucoup plus large public finalement qu'un public strictement communiste. Et effectivement, c'est un très bel éditeur que Jérôme Lindon qui va accepter tout de suite évidemment de publier cet ouvrage-là. C'est lui qui va trouver le titre, La Question, référence donc à la question la torture en fait au Moyen-Âge et on pourrait dire aussi référence aux articles de Mauriac de 1955, donc c'est pas non plus innocent, et qui questionne, on va dire, le public, justement, la question de la guerre d'Algérie, c'est aussi celle-là, hein, c'est aussi la question de la torture. Il faudrait souligner aussi que c'est un ouvrage qui a eu évidemment un retentissement énorme dès sa parution. Donc il paraît en février 1958, d'abord avec 5000 exemplaires, mais finalement avec déjà tout le background de l'affaire qui existe, qui préexiste déjà avant. Là, on va avoir des ouvrages qui vont se vendre très très vite. Les ouvrages sont réimprimés immédiatement, si bien qu'en quelques semaines, on a plus de 60 000 exemplaires qui sont vendus.
On me poussa dans la cuisine, et là on me fit allonger sur le potager et l'évier. Elle m'entoura les chevilles d'un chiffon mouillé, puis les attacha fortement avec une corde. Tous ensemble, ensuite, ils me soulevèrent pour m'accrocher, la tête en bas, à la barre de fer de la hotte au-dessus de l'évier. Seuls mes doigts touchaient le sol. Ils s'amusèrent pendant un moment à me balancer de l'un à l'autre, comme un sac de sable. Je vis elle qui allumait lentement une torche de papier à la hauteur de mes yeux. Il se releva et tout à coup je sentis la flamme sur le sexe et sur les jambes dont les poils s'enflammaient en grésillant. Je me redressai d'un coup de rein si violent que je heurtai elle. Il recommença une fois, deux fois, puis se mit à me brûler la pointe d'un sein.
Le livre est censuré.
Le livre est censuré plusieurs semaines plus tard, donc il a le temps d'être vendu. C'est trop tard, le livre est diffusé largement et va continuer d'être diffusé. Donc il va être réimprimé aussi dès son interdiction en Suisse par Nils Andersson, donc un éditeur suisse, l'éditeur de La Cité à Lausanne. Et on trouve, dès avant la parution aussi, des demandes de traduction en langue étrangère, donc pour la Grande-Bretagne, et après, tout de suite, à sa sortie, beaucoup de demandes de traduction pour les principaux pays européens, pour les États-Unis également, le Japon, etc., etc. Si bien que l'ouvrage, au cours de l'année 1958, est déjà traduit en 13 langues. Après, je crois qu'on arrive à une trentaine de langues, en tout, 28. Et en plus, il va y avoir des réimpressions par Le Canard Enchaîné, par exemple, qui va publier sur une seule page, en tout petit caractère la question, donc avec une possibilité de lire comme le texte malgré en fait qu'il soit barré d'un grand censuré au centre de la page.
Mes mâchoires étaient soudées sur l'électrode par le courant. Il m'était impossible de desserrer les dents, quelque effort que je fasse. Mes yeux, sous les paupières crispées, étaient traversés d'images de feu, de dessins géométriques lumineux, et je croyais les sentir s'arracher par saccades de leurs orbites, comme poussés de l'intérieur. Le courant avait atteint sa limite, et parallèlement ma souffrance aussi. Elle était comme métal, et je pensais qu'il ne pourrait pas me faire plus mal. Mais j'entendis « E » dire à celui qui actionnait la magnéto « Par petits coups, tu ralentis, puis tu repars. » Je sentis l'intensité diminuer, les crampes qui raidissaient tout mon corps décroître, et d'un seul coup, comme l'autre faisait donner à plein la magnéto, le courant m'écartelait de nouveau. Pour échapper à ces chutes brusques et à ces remontées aiguës vers le sommet du supplice, de toutes mes forces je me mis à me frapper la tête contre le sol, et chaque coup m'apportait un soulagement. Eux, tout près de mon oreille, me criaient « Ne cherche pas à t'assommer, tu n'y arriveras pas. »
Finalement, Henri Alleg va finalement être transféré en France, notamment donc à la prison de Rennes. Il va être condamné.
Il va avoir un procès.
Il va y avoir un procès. Il va être condamné à 10 ans. Donc c'est pas une condamnation à mort ni quoi que ce soit. Enfin bref, etc.
Pour atteinte à la sûreté.
Pour atteinte à la sûreté de l'État. On est toujours dans cette optique de répression. Il est condamné pour entreprise de reconstitution de ligue dissoute, atteinte à la sûreté de l'État, et donc il est condamné. Au maximum, on est toujours bien dans cet aspect répressif, au maximum, toujours. Donc ça se déroule en 1960, à partir de cette période-là. Donc Henri Alleg se trouve en prison aussi, et il va décider de s'échapper avec le concours de proches du Parti communiste, du Parti communiste algérien aussi d'ailleurs, et donc va s'échapper en 1961. en Tchécoslovaquie jusqu'à la fin de la guerre et à l'indépendance. Donc il va revenir en Algérie pour essayer de remonter Alger républicain qui avait été évidemment interdit voilà, pendant toute cette période-là.
Et qu'est-ce que fait donc Henri Alleg de retour en France? Il poursuit sa carrière de journaliste.
Il poursuit sa carrière de journaliste à l'Humanité, hein, dont il devient le secrétaire général. Donc c'est une voilà en même temps une vraie carrière de journaliste. C'est un vrai homme d'écrit, de l'écrit et de la presse. Il a continué à lutter jusqu'à la fin de sa vie. Ça a été vraiment un militant jusqu'aux dernières années. Et Henri Alleg a aussi fait partie de l'appel des 12 qui avait été lancé en 2000 par 12 personnalités, dont Pierre Vianlaquet et Germaine Tillion aussi, Josette Audin, Simone de Bollardière et j'en passe. Cet appel des 12 qui entendait faire la lumière et sur la torture pendant la guerre d'Algérie. Le témoignage d'Henri Alleg est vraiment, c'est un livre qui a marqué la guerre d'Algérie. C'est un des livres emblématiques de la guerre d'Algérie. C'est un livre en même temps qui a une particularité, c'est que c'est un livre qui est écrit par un Français qui a subi des tortures. C'est un livre qui masque en même temps que les tortures ont été avant tout subies par les Algériens.
يقول بركة ما تنبح الشي معقول ما نحطوش السلاح الحرب طول هذا وين يقوى الكفاح.
Merci donc à Tramorque et Meneur. Les extraits de la question étaient lus par Romain de Beigdelièvre, la question publiée aux éditions de Minuit. Prise de son, Pascal Bénard, le mixage, Claude Nior. Il y avait donc des archivina, bien sûr. Et puis aussi, ce que nous entendons, le chœur des combattants du FLN, enregistré, enfin, sur disque en 1962.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Voilà, la fabrique de l'histoire qui, vous l'avez compris, toute la semaine, comme d'autres émissions de France Culture, les nouveaux chemins à 11h et également les émissions scientifiques de 16h, s'intéresse à la préparation du bac blanc, en l'occurrence d'histoire, pour la fabrique de l'histoire. Et nous continuons cette semaine, après avoir traité mardi de la question du Proche-Orient depuis 1918, et puis hier du projet politique européen avec un portrait de Simone Veil, et mardi il s'agissait d'un portrait de Anouar El Sadat. Et bien après ce portrait d'Henri Alleg qui a été concocté par vous, Séverine Attard, on vient de vous entendre. Bonjour Séverine.
Bonjour.
Nous sommes avec un professeur au lycée Blaise Sandrard à Sevran, Rémi Pavin. Bonjour Rémi Pavin.
Bonjour.
Et une de vos élèves, parce que Sevran est loin de la maison de la radio et c'était compliqué de venir jusqu'ici. Merci en tout cas à vous, Nihal, d'être venu pour nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Votre professeur va travailler à une composition sur cette question des mémoires de la guerre d'Algérie. On a été surpris quand, il y a maintenant 4 ou 5 ans, les nouveaux programmes du bac, donc de terminale, sont apparus, que de voir arriver cette question des mémoires comme étant un thème en soi, d'une certaine façon, dans une série de leçons d'histoire, puisque cette question des mémoires est une question relativement récente dans l'historiographie française, qu'elle fait débat régulièrement. Et là, il y a donc deux leçons. Chaque professeur peut à la possibilité de traiter soit des mémoires de la Seconde Guerre mondiale, soit des mémoires de la guerre d'Algérie, Rémi Pavin.
Oui, effectivement, c'est un thème qui reflète un petit peu les renouvellements historiographiques. C'est peut-être le thème le plus novateur, hein, par rapport aux autres chapitres du programme d'histoire. En général, c'est plutôt soit de l'histoire politique, soit de l'histoire des relations internationales, donc de l'histoire qui se faisait depuis longtemps. Et là, l'histoire des mémoires, ça c'est un renouvellement, hein, puisque c'est un thème qui est apparu dans le champ historiographique avec les années 80. On pourrait citer Pierre Nora et les lieux de mémoire. Mmh. Et donc ici, là, le programme de terminale est en prise presque avec les derniers moments de la recherche historiographique, donc c'est quelque chose de bien.
Oui, mais effectivement, quand vous dites que tous les thèmes sont des thèmes relativement classiques, celui qu'on traitera demain, socialisme et syndicalisme en Allemagne, est un thème peut-être classique, mais extrêmement difficile et qui est généralement abordé de façon difficultueuse par à la fois les professeurs et les élèves, parce que simplement c'est un thème qui ne correspond pas à ce que les élèves ont pu faire depuis longtemps, depuis qu'ils sont au collège et au lycée.
C'est vrai que le champ de l'histoire du syndicalisme en Allemagne est un peu exotique, mais cela dit, la manière dont on peut le traiter, finalement, c'est de l'histoire sociale un peu classique. Alors c'est aussi un sujet qui est très intéressant, mais en termes d'historiographie, c'est peut-être moins novateur que la question de l'histoire des mémoires. Vrai que ça perd un petit peu les élèves, compte tenu du fait que l'Allemagne et les personnages dont on peut parler, c'est des sujets qui leur sont parfois un peu lointains, mais en même temps qui peuvent être amenés avec une certaine actualité.
Mais c'est vrai qu'on voit dans ces programmes, alors ce sujet-là, effectivement, qui est encore très brûlant, qui fait polémique, mais qui donne à voir, enfin pour les élèves en tout cas, cette initiation à l'historiographie, ce qui est assez intéressant, dès la terminale, à une certaine époque, même en première année d'université en histoire, on faisait même pas d'historiographie, enfin j'ai mes propres souvenirs sur cette question.
Et les miens donc.
Et voilà. Mais on voit bien quand même que même hier avec l'Europe, c'est l'Europe de 92 à nos jours, et évidemment on est de plein pied dans l'actualité. Hein. C'est vrai que alors c'est très intéressant pour les élèves. Est-ce que pour les enseignants parfois c'est un peu compliqué, parce que j'imagine qu'il y a aussi des questions sur aujourd'hui qui doivent surgir de la part des élèves. Alors,
sur la question de la guerre d'Algérie, effectivement, dans les classes, mais justement, c'est un sujet qui suscite le débat et l'intérêt des élèves, celle de la Deuxième Guerre mondiale également, donc du coup, c'est quelque chose qui passe bien et qui, moi, c'est un chapitre introductif qu'on traite de manière assez courte, je crois qu'il y a 5 ou 6 heures au programme, enfin, dans le programme officiel, et qui permet d'un peu teaser les élèves dans l'histoire et dans l'année.
Alors, avant de vous lancer justement sur cette composition autour des mémoires de la guerre d'Algérie, vous dites dans le programme officiel, entrons un peu quand même dans la salle de classe, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir ce qu'il en est de la pratique. On avait lundi deux professeurs de lycée, à savoir Vincent Casanova et Laurence Decoq, qui nous disaient entre l'esprit d'un texte, en particulier un texte ministériel, et puis la pratique, eh bien, il faut s'intéresser à la façon dont les professeurs enseignent en classe, ce qui se dit en classe, ce qui se fait en classe. Ces horaires qui sont prévus, pourrait-on dire, pour chacun des chapitres. Comment vous en débrouillez-vous d'une certaine façon, et comment un professeur joue-t-il avec sa liberté d'enseigner.
Il y a cette fameuse liberté pédagogique qu'a l'enseignant. Quand on est en terminale ES ou en terminale L, on a un peu plus de temps, un volume horaire un peu plus important, donc on peut avoir un peu plus de liberté. Mais même en terminale S ou EL, les programmes sont quand même extrêmement chargés, et l'objectif, c'est de les préparer au bac, de préparer les élèves au bac.
De traiter tous les thèmes. De ne pas faire d'impasse.
On n'a pas le droit de faire d'impasse, et d'éviter de, à la fin de l'année, leur donner 4 polis qui correspondent au chapitre qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Donc moi, c'est vrai que j'essaye de m'astreindre à respecter le volume horaire, puisque si on met bout à bout et qu'on additionne tous les volumes prévus, eh bien, on arrive à la totalité de l'année, donc sans une séance manquante. Donc c'est parfois un peu délicat, ce qui fait que, par exemple, en terminale S, on est obligé de cavaler, de véritablement courir. Et c'est vrai que souvent on dit, oui, il faut plutôt une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Pour la terminale S, en tout cas en histoire, il s'agit de quand même remplir la tête des élèves pour leur permettre ensuite
de ne pas sécher,
de produire une composition.
Rappelons ce qu'on a dit depuis le début de cette semaine. Donc effectivement, le volume horaire de cours en histoire pour les terminales S est bien plus faible que le volume horaire pour les autres terminales, en particulier ES et L. Donc effectivement, ça nécessite de cavaler un peu plus, même si le programme est un peu plus léger pour ces élèves de terminale S. Alors, lancez-vous, Rémi Pavin, sur cette composition autour des mémoires de la guerre d'Algérie. Comment faut-il la concevoir? Comment faut-il l'introduire? Comment faut-il commencer sa copie de bac ou sa copie de bac blanc?
Alors, c'est toujours élégant de commencer par une citation. Donc moi, j'ai choisi une célèbre citation de Marc Bloch en 1914 qui nous dit « Il n'y a pas de bons témoins ». Ici, on peut immédiatement saisir l'opposition entre l'histoire et la mémoire, en l'occurrence celle du témoin, qui est toujours partielle et partiale. Alors, ce qu'on sait moins, c'est que pour illustrer cette assertion, l'illustre médiéviste évoquait une bataille. La bataille d'Austerlitz, donc un champ d'histoire contemporaine. De fait, la mémoire des conflits est particulièrement sujette à des distorsions, et ces distorsions compliquent la tâche de l'historien. Et là, on va le voir ici avec la question de la guerre d'Algérie. Alors, après avoir commencé par une citation, dans une introduction, en général, on précise les termes du sujet. En l'occurrence, par exemple, la guerre d'Algérie. Ici, il y a deux manières.
L'intitulé que vous développez, c'est quoi exactement ?
L'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie, qui est l'intitulé officiel. Hein. En plus, les programmes, ensuite, il y a des petites précisions qui, en fait, fixent un certain nombre de dissertations possibles. Donc, il s'agit de traiter toutes ces dissertations. C'est vrai qu'en, notamment en S, l'élève n'a pas forcément le loisir de véritablement pouvoir traiter, à partir de chaque chapitre, plusieurs dissertations. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prépare chaque dissertation pour qu'à la fin, l'élève apprenne et ressort ce qu'il a appris. Donc, la guerre d'Algérie, si on est en ES ou en L, je pense qu'on peut quand même, dans l'introduction, faire quelques petites précisions le fait que l'Algérie a été conquise par la France à partir de 1830, qu'elle est devenue une colonie de peuplement, dans laquelle coexistent plusieurs populations, hein, des colons, des arabes, des berbères, des juifs, dont les droits sont différents. Contrairement au Maroc ou à la Tunisie, elle est divisée en départements. On a des mouvements nationalistes qui apparaissent dès l'entre-deux-guerres.
On les cite ou on ne les cite pas quand on
Non, là, dans l'introduction, je pense qu'on ne va pas les citer. La participation des Algériens à la Deuxième Guerre mondiale relance des espoirs d'indépendance, mais en mai 45, je pense qu'on, par contre, on peut citer les massacres de Sétif et Guelma, en évoquant un bilan peut-être difficile à établir, mais entre 10 000 et 20 000 Algériens qui sont tués, c'est quand même énorme. Pour pas mal d'historiens, c'est le début, hein, ces massacres de la guerre d'Algérie. Pour d'autres, elle commence plutôt en novembre 54, au moment du soulèvement organisé par le FLN. À ce moment-là, le gouvernement métropolitain augmente les effectifs militaires, les combats s'intensifient progressivement, ils atteignent leur apogée lors de la bataille d'Alger en 57. En 58, les généraux d'Algérie refusent d'obéir au pouvoir parisien, provoquent la fin de la 4e République. À ce moment-là, De Gaulle est appelé en renfort. Il lance le célèbre « Je vous ai compris » à Alger en juin 58 et il utilise l'ambiguïté de sa phrase pour en fait apaiser en quelque sorte les colons. Mais en fait, il prépare l'indépendance et il signe les accords d'Évian le 18 mars 62. À ce moment-là, l'Algérie devient indépendante officiellement le 3 juillet.
Ça, on le dit dans l'introduction ?
Ça, on peut le... Alors,
c'est difficile, c'est long quand même.
C'est un peu long. Alors, si on n'a pas envie de... Si on veut raccourcir, il faut au moins dire, je pense, que la guerre d'Algérie désigne en fait en général la période 1954-1962 au cours de laquelle différents groupes militaires et politiques algériens affrontent l'armée française et aboutissent à la défaite de l'armée française, voilà pour synthétiser.
D'accord.
Parce que en fait l'intérêt du chapitre c'est pas tellement d'étudier la guerre en tant que telle.
Mais ça veut dire tout de même qu'il faut la connaître un peu, cette guerre. C'est-à-dire que étudier les mémoires de la Seconde Guerre mondiale ou les mémoires de la guerre d'Algérie nécessite quand même d'avoir une petite connaissance de l'histoire elle-même de cette Seconde Guerre mondiale ou de cette guerre d'Algérie.
En général, le professeur fait quand même un petit rappel des faits qui sont d'ailleurs présentés dans les manuels. Et puis de toute façon, quand on va parler des mémoires, ensuite on va parler de la mémoire de tel ou tel événement.
Donc,
ça va rappeler ce qui s'est passé. L'intérêt, en fait, c'est donc de réfléchir à la différence entre l'histoire et la mémoire, ici à partir de la guerre d'Algérie, comme d'autres élèves plutôt le font à partir de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. D'ailleurs, si ça tombe au bac, ce chapitre, ce sera précisé à partir de l'exemple étudié en cours, souligné la question de l'histoire, l'historien et de la mémoire.
D'accord.
Et donc l'élève, du coup, les correcteurs ont deux types de copies différentes.
Mmh. Ah, ils peuvent choisir alors, en fait. C'est à eux de choisir.
C'est à eux de choisir. Éventuellement, même s'ils préfèrent, enfin, s'ils ont eu un cours sur la Seconde Guerre mondiale, qu'ils préfèrent par eux-mêmes, en autodidacte, apprendre sur la guerre d'Algérie, ils ont tout à fait le loisir de parler de la guerre d'Algérie. Donc, dans l'introduction, on doit ensuite préciser la différence entre l'histoire et la mémoire. La mémoire, c'est ce que l'on retient. Elle est sélective, elle est subjective. Elle n'est pas forcément vraie. Hein. On oublie, on se trompe. Au contraire, l'histoire, c'est l'idéal, c'est censé être un récit vrai sur des événements passés. Mmh. Alors, pour des élèves de terminale, on n'attend pas vraiment de réflexion épistémologique sur la nature de l'histoire. Mmh. Hein, rappelons-le quand même, Paul Venn montre bien que l'histoire est interprétation, et toujours interprétation des événements. En revanche, pour des élèves de terminale, on peut quand même s'attendre à une petite réflexion introductive sur le fait que l'historien utilise des mémoires vivantes, pour produire le récit historique, en confrontant ces mémoires, voir que l'histoire doit essayer de dépasser les mémoires individuelles, dépasser les mémoires qui sont portées par les groupes. Donc ça, c'est un premier point sur la différence entre l'histoire et la mémoire. Mmh. Je pense qu'ensuite, pour arriver à la problématique, puisque l'objectif d'une introduction, c'est d'arriver là, on peut souligner que cette question des mémoires de la guerre d'Algérie invite à comprendre la manière dont cette guerre a été perçue de part et d'autre de la Méditerranée, mmh. puisque le champ géographique de la question, c'est la France, mais c'est aussi l'Algérie. Il n'y a pas de précision géographique, en tout cas c'est sûr, c'est qu'il faut parler de la question de la mémoire de la guerre d'Algérie en Algérie.
Ah oui, donc ça n'est pas cantonné à la simple histoire de la France et de la métropole.
Et donc il va falloir souligner l'évolution de ces mémoires. Donc pour problématiser, j'ai proposé trois questions. Je pense que l'élève, on en attend au moins une. Ce qui est important, c'est quand on pose des questions dans l'introduction, y répondre dans la conclusion. Ne pas oublier de répondre à la problématique de manière synthétique dans la conclusion. Donc, quelles sont les différentes mémoires de ce conflit ? Pourquoi s'opposent-elles ? Dans quelle mesure l'histoire a-t-elle réussi à dépasser ce conflit de mémoire ? Alors, pour répondre à la problématique, j'ai choisi un plan chronologico-thématique en trois parties. On verra d'abord les mémoires immédiates du conflit jusqu'aux années 70 à peu près. Puis les conflits mémoriels avec la renaissance des mémoires de guerre qui avaient été occultées auparavant. Et enfin, on soulignera des dynamiques plus positives avec les tentatives d'écrire une histoire dépassionnée de la guerre d'Algérie qui existe depuis les années 2000. Alors évidemment, d'autres plans étaient possibles. Dans les manuels scolaires, on voit souvent des plans géographiques que je trouve quand même un peu faibles sur la France, enfin les mémoires de la guerre d'Algérie en France et puis les mémoires de la guerre d'Algérie en Algérie. Mmh. Je trouve que c'est bien d'essayer de mixer les deux. Alors, on peut commencer tout de suite donc la première grande partie que j'ai intitulée « Histoire et mémoire immédiate, censure, oubli et version officielle » de 54 aux années 70, en commençant par ce qu'on appelle la guerre sans nom en France. Puisque si on s'intéresse à la question de la mémoire, il faut voir que la mémoire, elle se construit dès les événements.
Ouais.
Or, à l'époque en France, au moment où cette guerre se déroule, c'est une guerre sans nom en métropole, puisqu'on parle d'opérations de pacification, de maintien de l'ordre ou encore des événements d'Algérie, 12 euphémismes, pour désigner cette guerre, euphémisme qui dure tout de même, on le verra tout à l'heure, jusqu'en 1999. Alors évidemment, ce terme ne fait pas l'unanimité, hein, même pendant la guerre, on a le PCF, une bonne partie de la gauche qui dénonce la guerre, qui dénonce le fait de voir mourir les appelés, et puis on a des dénonciations de la torture par de nombreux intellectuels, on a vu tout à l'heure le portrait d'Henri Alleg, on pourrait aussi citer le manifeste des 121, le fait que cette dénonciation elle subit la foudre des censeurs, hein, voire de la police ou de l'armée, la question d'Henri Alleg est censurée, on pourrait peut-être plus simple hein, pour des élèves évoquer la chanson « Le déserteur » de Boris Vian également, ou encore le fait que certains sont inquiétés par la police, comme l'historien Henri-René Maroux. Donc quand la censure et puis l'action policière essayent d'éliminer les voix discordantes, au contraire, la propagande gouvernementale met l'accent, elle, sur les violences du FLN, et elle insiste par exemple sur l'embuscade de Palestro de 1956, qui était une embuscade tendue par le FLN contre l'armée française, qui est une victoire algérienne. Dans le discours officiel, les indépendantistes sont présentés comme des terroristes, des extrémistes, etc. Après la défaite, le gouvernement essaye d'effacer le passé. Il y a des lois d'amnistie qui pardonnent à tous ceux qui ont participé à la guerre. La censure, elle, est toujours active. On peut citer peut-être un exemple dans ces années 60. J'ai choisi le film de Robert Enrico, qui est assez méconnu, qui s'appelle La belle vie, qui est tourné en 1962 et qui raconte l'histoire du retour d'un appelé du contingent. Appelé qui a été assez traumatisé par la guerre, le thème est assez similaire à celui de Muriel, d'Alain René.
Ouais, qui traite aussi de cette question.
Alors, sauf que dans La belle vie, il n'y a pas de dénonciation de la torture. Alors, dans la belle vie, lorsqu'elle est présentée à la censure, il y a des scènes qui sont coupées. En fait, on voit bien là une volonté d'étouffement top-down de la part du gouvernement.
Top-down, donc du haut vers le bas.
De la part du gouvernement. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que cet étouffement, en fait, il semble avoir une certaine efficacité et beaucoup de Français souhaitent oublier le passé et souhaitent passer à autre chose. Par exemple, cette belle vie, finalement, elle est remontée après la censure. Elle est présentée à la Mostra de Venise en 63 où elle a du succès. Elle obtient le prix Jean Vigo en 64, le prix spécial du jury des rencontres internationales de la jeunesse de Cannes la même année. Donc, c'est un film qui est primé. Et pourtant, il ne parvient à sortir que dans peu de salles et il ne fait que très peu d'entrées. C'est-à-dire qu'il ne rencontre pas le public.
Comme vous racontez cette histoire, en tant que professeur, vous pensez que c'est, par exemple, surprenant pour un élève, puisque vous avez sûrement raconté cette même histoire à vos propres élèves, plutôt que de parler d'avoir 20 ans dans les Aurès ou d'autres films qui sont de notoriété, donc qui ont été interdits ou censurés autour de cette question de la guerre d'Algérie. D'une certaine façon, je dis pas qu'on gagne des points, mais on montre son originalité à mettre cet exemple de Robert Enrico et de La Belle Vie dans sa copie.
Je pense qu'effectivement, le correcteur qui ensuite a 70 copies, il est content d'entendre parler d'un film qu'il connaît pas. D'accord. Parce que c'est un film totalement disparu. C'est peut-être une sorte de plus-value, parce que c'est ce que je m'imagine.
Voilà.
En tout cas, l'action gouvernementale, donc, elle aboutit à une mise à l'écart assez durable de la guerre d'Algérie. Les mémoires se taisent. Alors, ça veut pas dire qu'il y a pas de mémoire, hein, bien entendu. Mais dans une copie, c'est important de réserver ses cartouches, de pas utiliser son chargeur tout de suite, si je peux me permettre m'exprimer ainsi.
Oui, surtout dans un contexte.
Désolé. Ouais. Donc, j'évoquerai plus tard les différentes mémoires. Ce qu'il faut bien noter, c'est que pour l'instant en France, les mémoires n'occupent guère l'espace public. En Algérie, les choses sont très différentes, puisque, et c'est la deuxième sous-partie sur la révolution algérienne. Donc déjà, les mots sont, on parle là-bas de révolution algérienne, de guerre d'indépendance, hein, et non pas d'événements d'Algérie. Et le FLN, qui accapare le pouvoir, construit une mythologie nationale à sa gloire.
Éliminant les autres mémoires possibles.
Les
combat,
tensions avec le MNA de Messaliage sont gommées. L'existence même du MNA est effacée. Mmh. Le rôle de la Fédération de France est effacé parce que la Fédération de France ne s'est pas rangée du côté de Ben Bella en 62. Donc l'histoire est instrumentalisée au service du pouvoir qui met en exergue en fait sa propre mémoire partielle, on pourrait dire. Donc on a donc bien deux mémoires différentes de part et d'autre de la Méditerranée. Ce qui est assez logique, hein, puisqu'on parle d'une guerre qui n'a pas été vécue de la même manière.
C'est la
première partie. Ensuite, dans une deuxième partie, que j'intitule « Les conflits mémoriels », on montre que le retour du refoulé, pour employer cette expression psychanalytique, fait son apparition. Donc on a une renaissance des mémoires de guerre. Donc là, on cite quand même avoir 20 ans dans les Aurès, parce que c'est bien d'avoir de l'originalité, c'est bien aussi de montrer qu'on a les cases
fondamentaux.
Donc on peut citer avoir 20 ans dans les Aurès de 72, ou Pierre Vidal-Naquet, la torture dans la République. On cite ensuite, dans les années 90, l'ouverture des archives militaires, quand même quelque chose d'important pour l'historien. Et le procès Papon de 97, qui donne une visibilité à l'espace public, puisque Papon passe en procès pour la déportation des enfants juifs. Et à ce moment-là, on se souvient qu'il est aussi le préfet de police en 1961. Triste personnage qui a continué à avoir un rôle et qui l'a participé, enfin donné des ordres pour la répression, hein, puisque le 17 octobre, c'est 200 morts algériens en France, à Paris. Événement qui avait totalement été occulté, oublié, qui avait même été confondu avec Charonne. Parce que Charonne était porté par une mémoire de, en février 62,
du Parti communiste.
Et ici, en fait, les historiens ont été un peu à la traîne des militants, d'ailleurs. Alors, on a donc une renaissance qui aboutit à la reconnaissance officielle de la guerre par l'État français en 99.
Est-ce qu'on cite la naissance, par exemple, d'une association qui s'appelle Au nom de la mémoire, qui ça sera cette association qui cherchera à faire reconnaître en particulier ces crimes de la période du 17 octobre 61, par exemple.
Ce serait de la plus-value également.
Voilà.
En tout cas, donc, l'espace public, à ce moment-là, redevient parcouru. Enfin, on peut trouver des traces de mémoire dans l'espace public. Et Benjamin Stora évoque la guerre des mémoires. C'est la deuxième sous-partie de cette deuxième partie. En Algérie, la version officielle est d'abord contestée lors du printemps berbère, mais violemment réprimée, et le gouvernement maintient la version officielle. Il inaugure le mémorial d'Alger en 1982, par exemple, hein, somptueux si ce n'est somptuaire. Et après une tentative de démocratisation, finalement, en Algérie, le processus électoral prend fin en 91. On peut dire que les mémoires concurrentes, elles ne peuvent pas s'exprimer. Hein, le gouvernement étouffe le conflit, tandis qu'en revanche, en France, il y a une véritable guerre des mémoires, ravivé par la polémique autour de Massu et Osarès, hein, qui évoquent la torture et reconnaissent...
1999-2000.
2001, oui. Également autour de l'article de la loi de 2005 sur le rôle positif de la présence française en Afrique du Nord, finalement retiré. Et donc là, il faut quand même présenter un peu, de manière, ce qui est un petit peu le cœur de cette partie, les différentes mémoires de la guerre d'Algérie, qui sont en conflit les unes avec les autres. Donc je pense qu'il faut absolument évoquer celle des Pieds-Noirs, qui continue d'insister sur les massacres perpétuée par le FLN. Mmh. Il faudrait peut-être aussi évoquer quand même celle des nostalgiques de l'Algérie française, qui croient encore au temps béni des colonies, ou peut-être citer, je ne sais pas, Jean-Marie Le Pen, qui a participé au combat. D'un autre côté, il faut aussi absolument citer les harkis, dont la mémoire ne peut pas vraiment s'exprimer, qui sont encore perçus comme des traîtres. Et d'ailleurs, ça se voit très bien dans les classes auxquelles on peut enseigner. Et puis, il faut citer celle des immigrés algériens, qui sont venus donc s'installer en France et dont les descendants mettent en exergue une mémoire, cette fois-ci, au contraire, très favorable au FLN. Mmh. On pourrait, pour finir, évoquer celle des militants de gauche, du PSU, ou la mémoire un peu ambiguë du PCF, qui, quand même, a voté les pleins pouvoirs.
Ça, c'est la fin de la deuxième partie.
Alors oui, comme exemple précis, on pourrait citer aussi la stèle Algérie française à Marignane, qui a été créée en 2005 par une association qui défend l'OAS, retirée par décision de justice et réinstaurée en 2011, qui permet de bien montrer les conflits. Donc on a bel et bien une guerre des mémoires en France. Et toutefois, à partir des années 2000, on a quand même de nombreux historiens qui tentent de produire des récits plus consensuels et de réconcilier les mémoires. On arrive à la troisième partie, écrire une histoire dépassionnée de la guerre d'Algérie. Mmh.
Qu'est-ce qu'on y met dans cette partie ?
Alors, dans cette partie, on souligne d'abord que l'objectif de l'historien, c'est de dépasser les conflits mémoriels. Il n'est pas là pour être dans le souvenir, il n'a pas peur de choquer tel ou tel groupe, il est là pour faire émerger, la vérité, c'est un horizon impossible à atteindre, mais un récit contrôlé et vérifiable, selon une matrice discursive rigoureuse. Donc, pour ce faire, il fait flèche de tout bois, des archives qui n'existent pas forcément, par exemple sur la torture, de l'histoire orale, et ce qui pose des problèmes puisqu'il y a encore des acteurs qui ne souhaitent pas évoquer cette mémoire. Donc il y a tout de même une demande sociale, et là il faut citer quelques grands travaux, au moins un grand travaux des années 2000, par exemple celui de Raphaël Branche, qui a réussi justement à dépasser les mémoires clivées, et à établir les faits relatifs à, c'est le titre de son ouvrage issu de sa thèse, « La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie ». L'existence de tels récits, c'est ça qu'il faut souligner, elle est de nature à dépassionner les clivages. En fait, les porteurs de mémoire, désormais, ils peuvent se référer à un récit contrôlé, alors si ce n'est objectif, au moins largement intersubjectif, et du coup, ça permet d'apaiser les choses, à mon sens. Donc en France, on a pu un petit peu dépasser les récits partiaux. En Algérie, c'est plus difficile. Le travail des historiens, de fait de la pression du pouvoir, de l'absence de démocratie, est quand même assez malaisé. Dans la même veine, on pourra achever la copie en évoquant le cas pour les nouvelles générations, pour les générations à venir, le cas de manuel franco-algérien sur l'histoire de l'Algérie à l'époque coloniale. Par exemple, on a un manuel dirigé par Sylvie Thénault, quand même un petit peu une pointure de cette question.
Bien sûr.
Ou encore l'ouvrage collectif franco-algérien dirigé par Benjamin Stora et Mohamed Arbi. Donc, on a des tentatives pour réconcilier la mémoire de part et d'autre de la Méditerranée.
Et on arrive à la conclusion, j'imagine.
Oui, alors avant une seconde,
il faut quand même souligner
que ce projet de réconciliation, il n'est pas achevé. Le projet de musée à Montpellier, dirigé par Sylvie Thénault, qui avait été accepté, qui finalement
n'était pas dirigé par Sylvie Thénault, mais elle participait au conseil scientifique,
et qui finalement se transforme en musée d'art contemporain, ça signale qu'il y a encore des clivages. Donc, dans la conclusion, l'élève doit répondre à la problématique, souligner les différentes mémoires de la guerre, les causes du clivage et le travail des historiens. En guise d'ouverture, c'est toujours bon de flatter un petit peu l'historien correcteur dans une ouverture, et on pourra citer Antoine Pro, qui montre que l'histoire doit nous libérer de la mémoire.
Très bien, merci pour cette leçon, ce travail donc de composition autour de l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie. Merci Rémi Pavin. Alors vous avez une de vos élèves qui est venue, Nihal, merci d'être ici. Vous avez une question à poser à votre professeur, quelque chose sur ce chapitre qui vous a intéressé, interrogé? La réponse, vous ne l'avez peut-être pas encore, donc est-ce que vous pouvez la poser devant les auditeurs de France Culture?
Faut-il tout retenir pour une dissertation?
Alors là, j'en ai dit beaucoup pour une dissertation. C'est vrai que c'est un petit peu difficile, surtout en terminale S, quand on est en 2 heures. Je pense qu'il y a des éléments qu'il faut écarter, parce que c'est sûr qu'on peut pas tout dire. Le travail un petit peu de l'élève, maintenant, c'est de faire la synthèse, mais l'enseignant, lui, doit aussi préparer à l'étude critique de documents, et pour ça, il est obligé de donner des éléments contextuels. Donc là, effectivement, en revanche... quand on est en ES ou en L, on a quand même 2h30 pour développer sa dissertation. Donc là, je pense qu'on peut en dire, pas mal. Il faut arriver à sélectionner au moins un exemple par sous-partie. Une idée générale et un exemple historique précis qu'on peut détailler sans, de manière pas trop allusive, à la fois le présenter, l'utiliser pour traiter le sujet.
Une autre question, Nihal, ou vous avez...
On aurait pu éviter cette guerre.
c'est avec des six, et vous savez qu'on peut faire.
Alors, on va faire bientôt une série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire sur l'histoire contrefactuelle, justement, la What If History, ce qu'on appelle avec des six, justement. Et si la guerre d'Algérie n'avait pas eu lieu, peut-être on pourrait en traiter. Mais c'est effectivement un peu compliqué, peut-être, d'évoquer cela dans une copie de bac, j'imagine.
C'est difficile. Alors, forcément, le processus d'indépendance, hein, dans toute l'histoire des indépendances, a toujours été conflictuel. Ce qui est sûr, c'est que là, ça a été particulièrement violent et qu'on aurait sans doute pu diminuer le nombre de morts, ne pas utiliser la torture. Pensez qu'en 1945, il y avait les Français qui se faisaient torturer, et 10 ans plus tard, les Français qui torturent. C'est vrai qu'il y a des exactions inqualifiables et injustifiables qu'on aurait sans doute pu éviter, mais c'est toujours délicat de refaire l'histoire.
Voilà. Merci à vous deux. Donc, merci à vous, Nihal, d'être venu depuis Sevran dans ce studio de la Maison de la Radio. Merci à vous, Rémi Pavin. Vous avez travaillé par ailleurs, il faut le rappeler, parce que je ne le savais pas, mais vous me l'avez appris avant l'émission. Votre thèse porte sur l'histoire du bonheur. Ça n'est pas tout à fait le thème que vous avez développé, en l'occurrence, dans ce travail de composition autour des mémoires de la guerre d'Algérie. Et elle est publiée, je crois, chez
Robert Laffont.
Merci à vous, Séverine. On se retrouve demain pour un dernier volet de notre semaine consacrée à cette préparation du bac blanc d'histoire. On parlera de quoi ?
Donc, il y aura un portrait de la militante intellectuelle, femme de lettres, Rosa Luxembourg, bien sûr. Et puis après, nous travaillerons sur le sujet avec Delphine Rachez, donc sur le sujet de syndicalisme et mouvement ouvrier en Allemagne, à la fin du 19e et au début du 20e siècle.
Merci à vous, Séverine, d'avoir préparé avec Françoise Camard ces petits portraits qui agrémentent cette émission et qui l'ouvrent chaque jour. Donc, je rappelle qu'il y a eu un portrait d'Anwar El Sadat pour ouvrir à la thématique du Proche-Orient, un autre portrait de Simone Veil pour traiter du projet politique européen, et aujourd'hui, donc, Henri Alleg pour nous introduire à la question de la guerre d'Algérie et de sa mémoire. Comme à l'accoutumée, Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marseille ont préparé cette émission. Clément Berman était à la technique et Françoise Camard à la réalisation. Réalisation à la fois de l'élément sonore de 20 minutes que nous écoutons en ouverture de l'émission, mais également de ce direct. Et comme d'habitude, si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, allez sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours, c'est-à-dire 3 ans. Vous pouvez la télécharger dans l'année qui suit sa diffusion. Vous pouvez laisser vos commentaires sur nos pages, mais également en discutant avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire et en nous suivant sur le réseau Twitter.